pas drôle parce que je peux rien faire, je peux même pas lire une recette, je peux plus manger.
Salut à tous, bienvenue dans le texte. Je suis heureuse de vous retrouver et de recevoir aujourd'hui Aurélien Casta. Bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Alors Aurélien Casta, vous êtes sociologue à l'Institut de recherche sur l'éducation. Vous êtes membre de l'Institut européen du salariat et votre travail s'inscrit dans la lignée des travaux de Bernard Friot autour de la cotisation, du régime général, du salaire à vie, institution communiste de la valeur dont vous examinez les déclinaisons possibles dans le cadre de la condition étudiante. Or, la condition étudiante, elle est sur le devant de la scène en ce moment puisque les mobilisations ne faiblissent pas en dépit de répressions policières extrêmement brutales. Ces mobilisations prennent actuellement la forme du blocage des centres d'examen avec des annulations de partiels qui se multiplient. C'est dans le cadre de la lutte contre la loi OR pour orientation et réussite des étudiants. Et la revendication principale qu'on entend de la part des étudiants, c'est le refus de cette loi et notamment le refus du principe de la sélection à l'entrée des universités. Alors cette mobilisation, elle est pour nous l'occasion d'une réflexion plus large et plus profonde sur la condition étudiante, son statut économique et social. Et cette réflexion, nous la conduirons en nous appuyant sur votre ouvrage « Un salaire étudiant, financement et démocratisation des études », ça vient de paraître aux éditions de La Dispute. Alors vous y examinez les modèles de financement des études supérieures en comparant le modèle britannique et le modèle français. Vous soulignez d'ailleurs la plus grande résistance française à l'entreprise de libéralisation et de privatisation de la formation supérieure. Résistance française qui est sans doute liée à l'histoire des luttes sociales françaises, très vigoureuse. Mais cette résistance, vous le soulignez, elle va être mise à rude épreuve dans le contexte global d'une incitation massive à la hausse des frais d'inscription, incitation au recours aux prêts étudiants. Et ces prêts étudiants qui se multiplient, ils sont d'une grande toxicité sur le plan économique. Vous mettez en avant le risque qu'ils représentent d'une éventuelle prochaine crise financière systémique, à l'instar de la crise des subprimes de 2008. Alors, ce sont là des considérations très économiques, dont il n'est pas certain qu'elles soient prégnantes dans la mobilisation actuelle des étudiants. Et c'est justement là-dessus que je voudrais démarrer cet entretien, Aurélien. J'aimerais bien savoir quel regard vous portez sur la mobilisation actuelle des étudiants, vous qui êtes un spécialiste de la condition étudiante. Quel regard vous portez sur cette mobilisation? Est-ce que vous avez le sentiment que les revendications dont ils sont porteurs sont à la hauteur des enjeux en présence?
Eh bien, actuellement, enfin, c'est toujours difficile sur une mobilisation enfin, qui est en cours. C'est encore très frais pour n'importe qui, je pense, même pour quelqu'un qui étudierait ça de près. Ceci étant dit, on voit de plus en plus, j'ai l'impression, dans les assemblées générales étudiantes, des groupes, des collectifs qui sont de plus en plus conscients que l'introduction de la sélection dans les établissements universitaires est en fait une étape avant la mise en place d'autres mesures, et notamment la généralisation des frais d'inscription et des prêts étudiants. Ces questions-là, de mon point de vue, sont de plus en plus discutées. J'ai l'impression de plus discuter que ça n'a pu l'être dans le passé à l'occasion de la mise en place des précédentes réformes des années 2000. Il y en a eu pas mal depuis, par exemple avec la loi sur l'autonomie des établissements universitaires en 2007, que j'ai pu suivre de la même manière. Je pense qu'il y a quand même un saut qualitatif, une conscience plus élevée du lien qu'il y a entre ces réformes très progressives de l'université et puis la perspective d'une généralisation des frais d'inscription et des prêts étudiants.
Oui, alors c'est peut-être pas clair pour tout le monde en quoi la loi sur l'autonomie des universités, c'est la loi LRU adoptée en 2007. Vous avez évoqué la mobilisation qu'il y avait déjà eu contre cette loi. Comme elle se revendique comme une loi sur l'autonomie des universités, on voit pas tout de suite où est le mal. C'est difficile de comprendre en quoi la LRU a vocation, comme vous l'écrivez, à répandre dans le public des pratiques marchandes en place dans le secteur privé. Si on nous dit que les universités sont plus autonomes dans leur gestion, on ne voit pas en quoi ce serait le principe du secteur marchand qui viendrait envahir les pratiques universitaires. Est-ce qu'on peut expliquer en quoi déjà la loi LRU faisait entrer ces logiques libérales et marchandes dans le fonctionnement universitaire ?
La loi LRU, c'est un peu de la même manière que la loi actuelle. C'est une conception très particulière, notamment de l'autonomie des établissements, qui, quand on étudie en fait, un peu plus en détail les références des concepteurs de cette loi, renvoie en fait à une conception de l'autonomie qui s'est développée depuis un siècle et demi en France, dans l'enseignement supérieur privé en fait. Hein, c'est une conception de l'autonomie qui copie en quelque sorte celle qui existe depuis un moment dans l'enseignement supérieur privé, avec l'idée que les établissements doivent se voir dotés de tout un ensemble de libertés en matière de gestion des biens immobiliers. Hein, c'était très présent au moment de cette réforme-là. En matière de gestion du personnel, là aussi, c'est été très discuté, notamment en 2009, par le biais des mesures sur la condition des enseignants-chercheurs. Mais aussi, derrière, l'idée que l'autonomie, elle doit aussi s'appliquer en matière financière, et notamment quant à la fixation libre du montant des frais d'inscription et la politique tarifaire qui peut être adoptée selon toutes les formations, en différenciant éventuellement les frais d'inscription selon les formations, mais surtout en les augmentant
et en augmentant cette autonomie financière des établissements. Il y a eu une augmentation des frais d'inscription qui a été observée depuis, là en France, les frais d'inscription, ils sont déjà à la hausse, on peut le constater, depuis la loi LRU par exemple.
C'est pas aussi mécanique, c'est plus ancien, c'est plus progressif, depuis une quinzaine, une vingtaine d'années. Bon, voilà, vous avez déjà l'enseignement supérieur privé, hein, qui aujourd'hui, les frais d'inscription, c'est comparable à ce qui se passe dans les pays anglo-saxons, c'est pas rare que ce soit entre 1 000 et 15 000 euros l'année d'inscription. Ça existe en France et ça existe depuis un moment. Aujourd'hui, c'est un quart des effectifs de l'enseignement supérieur. Hein. C'est un secteur qui s'est pas mal développé, donc des pratiques avec elles qui se sont pas mal développées. Quand on regarde du côté de l'enseignement supérieur public, on a en France tout un ensemble de mesures qui ont été mises en place pour que les frais d'inscription soient librement fixés dans certaines filières. Par exemple, en France, les étudiants qui s'inscrivent en formation continue comme des personnes en reprise d'études, souvent on leur applique des frais d'inscription qui sont librement fixés par les établissements. Mmh. C'est pareil de certaines formations qui sont particulièrement, qui comportent beaucoup d'étudiants étrangers. Là aussi, il y a eu des décrets. Ça, c'était au début des années 2000. Tout ça, c'est quand même des choses qui existaient avant la loi LRU. Et puis les diplômes d'établissement. Hein. C'est un type de diplôme aussi qui est créé par les établissements. Et ils ont le droit à cette occasion de fixer eux-mêmes le montant des frais d'inscription. Mmh. À ça s'ajoute, encore une fois, au début des années 2000, une différenciation des frais d'inscription pratiqués en master par rapport aux frais d'inscription pratiqués en licence. Mmh. Jusqu'en 2002, 2003, 2004, c'était à peu près égal. Mmh. Et puis, on a tenté d'introduire, et ils ont réussi à l'époque, d'introduire des frais d'inscription plus importants pour le niveau master, ce qui reste encore de l'ordre de quelques centaines d'euros, mais c'est quand même pas rien d'un point de vue symbolique en tout cas.
Ouais. Alors, avec la hausse des frais d'inscription, on voit se développer le recours aux prêts étudiants. En France, c'est arrivé en 2008 avec Valérie Pécresse, ministre alors de l'enseignement supérieur, qui a mis en place donc des dispositifs de prêts étudiants garantis par l'État. Et alors là, c'est tout bénef pour le secteur bancaire. Mais vous y voyez donc, indépendamment du fait que politiquement, c'est vraiment une manière de concevoir la valeur économique des études de manière terriblement néfaste. Mais en plus, il y a donc un risque, selon vous, de crise financière systémique autour de la multiplication des prêts étudiants, puisque ces prêts font l'objet d'une titrisation, si j'ai bien compris, exactement comme on a fait avec les subprimes. Vous pouvez expliquer peut-être le mécanisme de comment est-ce que la dette étudiante, ça peut devenir un actif économique toxique. Peut-être expliquer ça.
Oui, alors peut-être te dire avant qu'il y a d'autres risques. Au-delà de l'enseignement supérieur, il y a quand même d'autres risques économiques que j'évoque dans le livre. Avant la titrisation, il y a un premier risque qui est quand même le risque d'une fuite des cerveaux, en quelque sorte, pour reprendre les termes convenus, notamment dans les pays non occidentaux, des jeunes qui sont aussi endettés, par ailleurs, parce qu'on pratique les mêmes politiques dans ces pays-là, et qui décident, alors qu'ils sont très diplômés, de partir dans les pays occidentaux pour rembourser plus facilement leurs prêts, leur endettement, parce que les salaires sont plus élevés, etc. Autre risque du même type, c'est des fuites des cerveaux, entre guillemets, du, du public au privé, parce que bon, voilà, le privé, c'est plus rémunérateur. C'est ce qu'on craint, par exemple, aux États-Unis. Hein. C'est deux risques. Ça, c'est une économiste qui s'appelle Annie Vinocur qui a bien mis en évidence ça. Et donc, voilà, la tendance peut-être à déserter certains secteurs du social, du public, parce que voilà, les carrières seraient moins rémunératrices et il serait beaucoup plus compliqué de rembourser les prêts. Le deuxième risque, c'est effectivement le risque d'une crise économique global, mais pas comparable à celle de 2008, et plutôt à celle de 1929, hein, avec un risque déflationniste, un risque de déflation, de baisse des prix, parce que, voilà, notamment aux États-Unis, là aussi, c'est ce que met en évidence Annie Vinocur, aux États-Unis, on s'inquiète de plus en plus que les personnes, en fait, notamment diplômées, voilà, doivent épargner pour leur logement, épargner pour l'éducation de leurs enfants, leur santé, leur retraite, et en plus, on leur demande de rembourser leur prêt étudiant, tout ça contraint énormément les revenus du travail et peut à terme provoquer une crise des débouchés des entreprises et avec ensuite des décisions de baisse des prix qui s'enchaînent et puis un cercle vicieux comparable à 1929. D'accord. Et donc l'autre risque de crise économique qui nous parle un peu plus, c'est celui de 2008 effectivement, puisque les prêts étudiants distribués soit par l'État, soit par, directement par les banques commerciales, en fait, finissent en définitive par devenir des titres de dette qui sont en possession des banques commerciales. Hein. Les mécanismes, on pourrait y revenir ensuite, hein, mais ces banques commerciales, à nouveau, récupèrent des titres de dette, hein, comme en 2008. Et visiblement, les mêmes décisions sont prises de leur part, puisque ces titres de dette, on va les regrouper avec d'autres titres de dette et refaire les produits toxiques qui ont circulé en 2008. Donc ces titres de dette-là, inclus dans ces produits toxiques-là, ils ont continué de circuler avec un stock mondial évalué à plus de 1000 milliards d'euros, hein, de dettes étudiantes. Ça a été redécoupé, ça a été revendu à des banques commerciales aussi européenne, même française, hein, peut le penser. Et si un jour on juge que, ce qui est probable, on juge que ces titres de dette, leur valeur est considérablement surestimée, parce qu'en fait on a des personnes qui ne sont pas sûres forcément de rembourser ces prêts, eh bien on peut retrouver les mêmes mécanismes de panique financière qu'on a vu en 2008, c'est un risque probable.
Vous observez déjà qu'au Royaume-Uni, qui nous précède dans la pratique du prêt étudiant, hein, au Royaume-Uni, c'est vraiment une pratique déjà assez massive, vous observez que de l'aveu même des services statistiques du Trésor public britannique, beaucoup de prêts étudiants ne seront, malgré les délais, 30 ans après l'obtention du diplôme aujourd'hui, jamais remboursé en raison des départs à l'étranger, des décès, du chômage, des salaires trop faibles touchés par les diplômés. Alors parmi la liste des éléments qui fragilisent ces titres de dette qui circulent sur les marchés financiers, il y a notamment les départs à l'étranger. Alors moi j'ai rencontré quelques étudiants québécois qui m'ont raconté des phénomènes de migration assez massifs, des étudiants qui sont massivement endettés, qui ont dû s'endetter en Amérique du Nord parce que là-bas les études sont très coûteuses et qui pourraient échapper au devoir de remboursement, préfèrent partir à l'étranger, disparaître et ainsi ne pas avoir à honorer leurs obligations plutôt que de rester sur place où là, de toute façon, ils sont endettés sur tellement longtemps que ça leur est plus possible d'envisager un avenir à peu près épanouissant, quoi. Donc, en plus de tous les phénomènes que vous décriviez, il y aurait des phénomènes migratoires, en fait, où les étudiants se mettraient à s'exiler pour échapper à leur obligation de rembourser des dettes. C'est de nouveaux flux migratoires à envisager. Donc, là, on a parlé du risque de la titrisation, le risque que ça fait peser sur l'économie, mais il faudrait commencer à regarder sur le plan idéologique ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui est arrivé à la fac française pour que on considère que l'étudiant, c'est un coût et c'est même éventuellement un endettement profitable, plutôt que de considérer que c'est un travailleur qui produit une valeur contemporaine de sa formation. Parce qu'il y a vraiment deux manières de se représenter l'étudiant. On considère que c'est un coût et que ça va devenir une valeur économique ultérieurement, quand il sera sur le marché de l'emploi, ou bien c'est un travailleur qui produit de la valeur au moment même où il se forme. Là, il y a deux manières de comprendre la valeur des études supérieures. Et c'est ces deux manières, au fond, qui s'affrontent depuis des décennies. Peut-être il faudrait reprendre L'histoire de cette confrontation idéologique, à quel moment commence à émerger l'idée que l'étudiant, c'est un travailleur, un jeune travailleur intellectuel qui produit une valeur économique contemporaine de sa formation?
Alors, si on prend le cas de la France, et pas le cas du Royaume-Uni, hein, ce qui est un autre processus en même temps avec les mêmes étapes, hein, des étapes similaires, sauf que le Royaume-Uni a connu d'autres étapes qui ont fait qu'aujourd'hui, là, c'est une application extrême, hein, de la hausse des frais d'inscription et des prêts étudiants. En France, si on regarde ce qui s'est passé, c'est plutôt depuis une vingtaine d'années, peut-être, hein, la fin des années 90. Tout ça, il s'est passé des choses à partir de ce moment-là, mais dans un contexte où, encore une fois, l'enseignement supérieur privé, contrairement au Royaume-Uni, l'enseignement supérieur privé existe depuis longtemps. Il est toléré en France, hein, mm-hmm. au nom de la liberté de l'enseignement supérieur. Mm-hmm. On tolère l'enseignement supérieur privé depuis la fin du 19e siècle. Et donc, en plus de cet enseignement supérieur privé, vous avez un certain nombre d'acteurs qui ont commencé à soutenir cette idée. Ça a commencé, comme en Angleterre, au fond avec la conférence des présidents d'université, mais aussi la conférence des grandes écoles. C'est les directeurs d'établissement, hein, en général, publics, privés, qui ont commencé à s'organiser pour mettre en avant ce type de proposition. À partir de la fin des années 90, début des années 2000, on voit que ces organisations, notamment la conférence des présidents d'université, qui était plutôt classée à gauche avant, mmh. a commencé à adhérer à cette idée au nom d'un problème de financement de l'enseignement supérieur et puis au nom d'une naturalisation, en quelque sorte du gel qui était mis en place des subventions aux établissements, etc. Mmh. Donc ils ont fini par accepter que l'État ne pouvait pas plus et envisager que ce soit qu'on change radicalement de modèle de financement et que les frais d'inscription financent beaucoup plus qu'actuellement l'enseignement supérieur. Mmh. Ils étaient aussi inspirés par ce qui se passait aussi dans le privé, hein. Ça revient. Pareil, quand vous regardez les hauts fonctionnaires avec lesquels j'ai eu l'occasion de m'entretenir, vous voyez qu'aussi au sein des services de l'État, à la même époque, on commence à être de plus en plus convaincus que cette hausse des frais d'inscription est la voie à suivre avec le développement des prêts étudiants. Vous avez ce type d'acteurs-là donc, qui s'est mobilisé. Vous avez aussi le patronat. Hein. Vous avez des groupes de réflexion patronale qui aussi ont produit des publications, tout comme des instituts de réflexion comme l'Institut Montaigne, Terra Nova. On finit par envisager cette voie-là et à proposer de l'appliquer en France d'une manière ou d'une autre, les deux cas. Vous avez que cette convergence d'acteurs qui peut énormément expliquer pourquoi cette idée s'est quand même énormément diffusée parmi les dirigeants, on va le dire, de l'enseignement supérieur et puis en dehors, les dirigeants d'autres secteurs.
Alors, vous évoquez Terra Nova, vous évoquez la conférence des présidents d'université et vous soulignez dans votre livre que ce sont quand même des groupes de réflexion ou des organismes qui étaient traditionnellement classés plutôt à gauche. Et donc là, on observe que ces groupes-là, les groupes socialistes en général ou proches du Parti socialiste, ont été les premiers à faire comme ça des concessions au secteur privé et à l'imaginaire capitaliste, hein, en considérant en effet que de toute façon, on ne peut pas revenir sur l'austérité budgétaire. C'est comme ça, on n'y touche plus. Et donc, bien sûr, les ressources sont à trouver du côté de l'endettement étudiant. Peut-être il faut insister sur cet aspect-là, qu'il y a une trahison socialiste de ce côté-là, qui a été assez décisive, hein, dans l'histoire de la bascule des imaginaires.
Oui, on peut parler de ça. En tout cas, c'est certain. Enfin, bon, on a des groupes, effectivement, qui avaient une audience dans certaines couches de la société. Et donc, les groupes classés à gauche ont commencé à défendre ça dans les années 2000 et à y voir la voie à suivre. Et de ce point de vue-là, elles ont joué un rôle décisif dans la promotion de ce type de mesures qui peut, d'une certaine manière, comme en Angleterre, hein, après le revirement du Parti travailliste, peut prendre une forme presque consensuelle, par moment, des évidences. Hein. Vous allez dans certaines réunions, c'est dit d'une façon très, très... Oh, pardon, excusez-moi.
Je vous en prie.
C'est dit d'une façon très naturelle, sortons de l'évidence. Bon, ben voilà, les frais d'inscription, les prêts étudiants, c'est la voie à suivre.
Ouais. Et c'est vrai que le modèle privé a l'air de s'étendre considérablement comme une espèce de référence inéluctable. Vous notiez tout à l'heure que c'est 20% des étudiants actuellement en France qui sont inscrits dans le secteur privé. Ouais. Et ça ne va faire qu'augmenter, puisque là, plus on va faire de la sélection à l'entrée de l'université, plus on peut supposer que, du coup, ceux qui ne trouveront pas leur place à l'université tâcheront de trouver une place dans le secteur privé. Hein, donc, ça va être tout à fait rentable pour les opérateurs de l'enseignement privé. Alors, vous rappelez l'histoire de l'enseignement privé, parce que on n'a pas forcément conscience de ça quand on est sur le paysage contemporain de la formation. On a parfois l'impression que les écoles privées, par exemple, c'est pour la liberté, notamment la liberté de l'instruction religieuse. Hein, que moi, j'avais l'impression que ça sert à ça, les écoles privées, notamment, enfin, en tout cas avant le bac, c'est la liberté pour pouvoir avoir des écoles confessionnelles, alors que la République française est laïque et donc l'éducation nationale est laïque. Mais en fait, vous rappelez l'histoire de l'enseignement privé en France. En fait, au départ, c'est vraiment le capital qui crée de l'enseignement pour le capital. C'est vraiment la classe bourgeoise dans le secteur ferroviaire, bancaire, textile, qui crée sur mesure des écoles pour former les cadres dont elle aura besoin dans son industrie. En fait, vraiment, au départ, c'est une logique purement capitaliste, le principe de l'enseignement privé. Ou bien il y a des enjeux quand même autour de la question confessionnelle, religieuse.
Oui, toujours un petit peu. Enfin bon, à la fin du 19e siècle, effectivement, c'est deux fractions de la bourgeoisie qui créent d'ailleurs deux types d'établissements qui ne s'entendent pas forcément. Il y a plein de.
Ah oui.
Il y a aussi des conflits, entre eux. Notamment pour des motifs religieux. Donc vous avez une fraction catholique de la bourgeoisie qui va soutenir les établissements ouvertement confessionnels. Et puis, vous avez une autre fraction non catholique de la bourgeoisie qui, elle, va soutenir, par exemple, la fondation du futur Sciences Po, quoi, la faculté libre, l'école libre, pardon, des sciences politiques à l'époque, qui était privée à l'origine, qui l'est toujours un peu en partie, d'ailleurs. Mais bon, voilà, là, à ce moment-là, on voit bien qu'il y a deux types d'établissements qui sont créés, à savoir dans les années 1870, qui renvoient, en fait, à deux types d'acteurs et deux fractions de la bourgeoisie.
Oui.
Mais les pratiques, on les devine, parce que bon, voilà, c'est lointain, on n'a pas non plus énormément de données, mais le peu de données que j'ai pu rassembler, on voit que ces pratiques, en fait, elles sont similaires, notamment en termes de conception de l'autonomie des établissements et de leur capacité à recruter qui elles veulent et à rémunérer de la manière dont elles le veulent, notamment en choisissant librement le montant des frais d'inscription pratiqués.
Ouais.
C'est ça qu'on sent à l'époque, dès la fondation de l'enseignement supérieur privé.
Et avec le soutien quand même de l'État, notamment le ministère de l'Industrie est tout à fait favorable à la formation de ces écoles-là. L'État ne voit pas du tout d'un mauvais œil le développement de ces structures de formation. Au contraire, enfin, il y a déjà un regard extrêmement complaisant sur l'idée d'un développement de ce type de formation plus favorable à une économie capitaliste. En fait, dès le départ, l'État a l'air de faire des concessions tout à fait considérables au secteur privé. C'est pas de ce côté-là qu'il y aura une résistance vraiment vigoureuse à l'expansion du secteur privé de la formation. Alors, face à ces logiques privées, libérales et très favorables à un imaginaire capitaliste, il se développe quand même un autre imaginaire qui veut, lui, plutôt la démocratisation des études supérieures, parce qu'il faut que tous aient accès à des études le plus longues possible. Et il y a un moment fort, je dirais un moment d'avènement de cet imaginaire-là, qui est vraiment la Commune. Vous évoquez le moment de la Commune de Paris comme un moment très intense de valorisation des études supérieures, le désir de pouvoir démocratiser les études supérieures. C'est un moment pivot, je pense, dans la constitution d'un imaginaire vraiment progressiste autour des études supérieures. Peut-être qu'on peut revenir sur ce moment-là et les propagateurs de cet imaginaire-là.
Ben ce moment-là, en fait, ça s'inscrit dans un temps un peu plus long de mobilisation, en fait, des couches populaires sur la question éducative. Bon, la Commune, c'est un moment... Je dirais parmi d'autres, mais bon, il y a une attirance de plus en plus forte à ce moment-là Des couches populaires, des couches paysannes aussi, mais bon, voilà, des couches urbaines notamment,
ouais,
avec la commune.
Et
pour,
vous insistez sur les paysans,
accéder à
effectivement, surtout les paysans, vous dites, c'est surtout les paysans qui sont très demandeurs apparemment d'un accès plus important aux études supérieures. Comment ça se fait qu'il y ait cette spécificité dans les populations paysannes, il y a cette aspiration très forte?
Ah ben, on est dans une France rurale, hein, donc de toute, ouais, façon, les couches populaires, elles sont quand même pas mal... Dans les campagnes, mais bon, il y a, ouais, une diffusion des idées républicaines de plus en plus dans les masses paysannes, avec des dynamiques, enfin bon, autour des notables locaux, des enseignants, voilà, avec des cours pour les adultes, etc. Enfin bon, le savoir devient dans ces milieux-là quelque chose qui commence à attirer, à mobiliser et qui va mener notamment aux grandes lois républicaines à la fin des années 1870, et donc toutes les lois sur l'enseignement gratuit, enfin, sur sa généralisation, etc., tout ce qu'on connaît. Mais voilà, c'est une mobilisation dans la durée sur les questions, ouais, éducatives, qui effectivement explique tout à fait qu'on puisse, avoir un début d'enseignement supérieur public aussi qui s'affirme pas mal à ce ouais, moment-là aussi, dans les années 1870.
Alors, il y a un deuxième temps fort dans l'élaboration vraiment d'un projet politique extrêmement progressiste et vigoureux s'agissant des études, c'est les années 46, 47, 48 en France, où là, c'est hallucinant l'effervescence politique et la qualité des projets qui sont formés à ce moment-là, entre la charte de Grenoble, les propositions qui sont faites par les commissions parlementaires. Donc, je pense qu'il faut revenir sur ce moment-là, et là, peut-être il faut détailler davantage tous ces projets, au fond, qui sont directement les émanations du Conseil national de la Résistance, hein, et de l'horizon des jours heureux. Donc, on va peut-être passer un petit peu de temps sur ces années-là, 46, 47, 48. En commençant, si on est dans l'ordre chronologique, c'est 46, c'est la charte de Grenoble c'est...
Oui, oui, oui. On peut démarrer par ça, avec quand, ouais, même rappeler que tout ça s'inscrit dans un tournant au sein des organisations de jeunesse, des organisations étudiantes qui sont extrêmement inspirées par les idéaux de la résistance. Hein. C'est,
ouais,
en fait, au fond, les premières positions en faveur notamment du salaire étudiant, c'est 1943. Hein. La France est encore occupée. Il y a déjà des organisations de jeunesse, d'étudiants qui prennent position pour le salaire étudiant. Et ouais, d'anciens résistants vont reprendre leurs études après la guerre, et notamment vouloir imposer, notamment rassembler toute la jeunesse, tous les étudiants, et imposer un tournant syndical à l'organisation étudiante principale, qui était l'UNEF, en faisant un véritable syndicat étudiant qui soit le plus proche possible des acteurs de la résistance, mais aussi des confédérations syndicales. C'est ça qui va se passer. Et une charte va être adoptée donc au congrès de 1946, au congrès de l'UNEF, hein, rédigée notamment par... les premières versions ont été rédigées notamment par d'anciens résistants. Hein. Bon, je donne des extraits dans le livre qui...
Elle est très impressionnante, cette charte. Elle figure en annexe de votre livre.
Oui, je pense que c'était important. Ouais.
Ah, c'est un texte qui est très émouvant. Hein. Ça démarre avec un préambule. Les représentants des étudiants français, légalement réunis en congrès national à Grenoble le 24 avril 1946, conscients de la valeur historique de l'époque où l'Union française élabore la nouvelle déclaration des droits de l'homme et du citoyen, où s'édifie le statut pacifique des nations, où le monde du travail et de la jeunesse dégage les bases d'une révolution économique et sociale au service de l'homme, affirment leur volonté de participer à l'effort unanime de reconstruction. Et l'article 1er affirme « L'étudiant est un jeune travailleur intellectuel ». Et une fois qu'on a posé ça, c'est un jeune, donc il a droit à une protection sociale. C'est un travailleur, donc il a droit à une rémunération. C'est un intellectuel, donc il a le devoir de faire partager et progresser la culture, dégager le sens de l'histoire. C'est extraordinaire. La qualité politique de cette déclaration stupéfie aujourd'hui. On est dans une telle régression intellectuelle et politique. On regrette presque l'état de chaos dans lequel se trouvait la France au moment où a pu se former un projet politique d'une telle qualité, d'une telle ambition. Il fallait le désastre, l'effondrement, tout à reconstruire pour avoir une telle puissance affirmative. C'est étonnant quand même, hein, la puissance politique de cette
charte. Ouais, je dirais qu'ils étaient particulièrement... Enfin, j'ai eu l'occasion de rencontrer l'un des rédacteurs là,
de
la charte il y a quelques années. Et on sent quelqu'un qui était conscient de la gravité de l'époque et qui avait décidé d'en finir avec, avec cette époque. Donc, je ne sais pas si c'était vraiment l'esprit... L'esprit, mais quand on lit c'était vraiment son état d'esprit à ce moment-là. Mais quand on lit la charte, c'est vrai que c'est ça qui parle aussi. Hein. Je l'ai vu insister, vous avez bien insisté sur révolution économique et sociale. Il a également insisté là-dessus, et puis surtout le préambule, hein, plus que sur les articles, au fond, hein, c'est plus le préambule qui était à ses yeux extrêmement important. Et puis, bon, révolution économique et sociale, hein, dans leur esprit, visiblement, l'idée était de contribuer à un changement radical de la société et de l'économie aussi. C'était ça qu'il y avait derrière.
Et le contexte était finalement plutôt favorable, ce qui peut sembler paradoxal, parce qu'économiquement, la France était quand même dans un état de... Enfin, c'était la ruine, tout était à reconstruire. Mais politiquement, il y avait des communistes quand même au gouvernement, donc il y avait quand même des opportunités à saisir. Du coup, c'était la bonne fenêtre historique. Alors, arrive en 1947 le plan Langevin-Wallon, sur lequel on peut peut-être passer quelques instants. Donc, une série de propositions publiées en 1947 qui proposent notamment enseignement gratuit, laïque, obligatoire jusqu'à 18 ans, corps de professeurs unifiés, programme de construction d'établissements scolaires. En quoi il est important ce plan Langevin-Wallon de 1947
Il est rédigé par un comité à l'initiative du Conseil national de la Résistance, hein, qui, quelques années plus tôt, a demandé à ce comité de réfléchir sur une réforme complète de l'enseignement, encore une fois, pour en finir avec le monde de l'entre-deux-guerres. Hein, c'est ça l'idée. Et créer, encore une fois, une nouvelle société par le biais du système d'enseignement. Donc, un changement de tout le système d'enseignement avec des propositions extrêmement intéressantes avant le baccalauréat. Hein, c'est aussi un allongement des études, permettre à tout le monde de faire des études jusqu'à 18 ans, permettre à tout le monde d'avoir... un baccalauréat, gratuité totale, effectivement, jusqu'à 18 ans de l'enseignement, avec aussi une question d'initiation à des savoirs qui sont pas forcément enseignés traditionnellement dans l'éducation nationale. Il y avait des choses extrêmement intéressantes de ce point de vue-là. Mais après 18 ans, en ce qui concerne les études supérieures, des réformes aussi, enfin, tout aussi ambitieuses, qui visait notamment à remettre en cause, hein, la division entre école et université, et puis à intégrer toutes les écoles, notamment privées aussi, dans une université réformée, à prévoir aussi que l'université assume à la fois la formation donc de citoyens, la diffusion de savoir généraux, transversaux. Des fois, ils évoquent le fait que ce sont des savoirs en fait transversaux à toutes les professions, à tous les métiers. Mais aussi que l'université réformée assumerait une formation professionnelle, notamment entre la deuxième et la troisième année, dans des instituts techniques, sur le modèle de la formation des maîtres, etc. Et qui permettrait d'intégrer les écoles. Et donc, la proposition, donc, qu'en plus de la gratuité de l'enseignement supérieur, en plus d'un pré-salaire versé éventuellement aux apprentis avant 18 ans, hein, qui auraient fait ça, il était question que les étudiants donc, reçoivent un salaire.
Un salaire, dites-vous, vous citez, en rapport avec les services qu'ils rendent et qu'ils sont appelés à rendre à la collectivité. Hein, donc, dès le plan Langevin-Wallon, 47, il est question de verser un salaire aux étudiants en rapport avec les services qu'ils rendent. Et non pas seulement qu'ils rendront, parce que c'est très important, hein, cette manière de considérer que l'étudiant, au moment de sa formation, et pas seulement plus tard quand il sera dans l'emploi et qu'il pourra valoriser du capital, l'étudiant, au moment de sa formation, rend un service à la collectivité, du fait même qu'il se forme. Alors en même temps, c'est affirmatif, c'est déclaratif, hein, les services qu'ils rendent, et qu'ils sont appelés à rendre à la collectivité. Mais en même temps, ils ne donnent pas le détail, le plan. De qu'est-ce que c'est les services que les étudiants rendent à la collectivité quand ils se forment ? Alors, peut-être il faut explorer ça. C'est quoi concrètement les services que les étudiants rendent à la collectivité au moment où ils se forment ? Qu'est-ce que c'est cette valeur-là ?
Oh bah, ça dépend du contexte. Hein. Si on revient à l'époque actuelle, qui au fond a des traits similaires avec l'époque étudiante dont on parlait là à l'instant, il y a notamment tout un ensemble de productions écrites, de projets qu'on demande aux étudiants, en matière d'enquête, des comptes rendus d'enquête, comptes rendus d'expérience. Tout ça, ça renvoie à ce qui se passe à l'intérieur actuellement des établissements, des écoles supérieures. Enfin bon, toute personne qui y est, en fait, qui observe un tout petit peu, voit que les étudiants font des choses qui ne sont peut-être pas toujours suffisamment valorisées.
Ouais.
Mais ils en font encore plus aujourd'hui parce que, voilà, ils sont, moi, c'est ce que j'appelle les valeurs d'usage, hein, produites par les étudiants. L'enseignement supérieur, il s'est massifié. Il a aussi changé, connu pas mal de transformations. Mais donc, ouais, vous avez des étudiants qui, aujourd'hui, contribuent à l'amélioration de tout un ensemble de services. Ça peut être par le biais des stages, hein, qui sont de plus en plus demandés aux étudiants. Vous avez aussi des étudiants qui, par le biais des stages, tentent de s'affilier à tout un ensemble de corps de métier, de mieux les connaître, de préparer une bonne connaissance du métier et puis aussi d'exercer des tâches très concrètes. Hein,
oui, mais alors du coup, là, c'est les services qu'ils rendent effectivement au secteur de l'emploi. Parce que quand ils sont stagiaires dans des entreprises, à ce moment-là, on peut évaluer en effet qu'ils rendent un service au secteur marchand dans lequel ils déploient leur performance. Mais il me semble, en vous lisant, qu'il y a une sorte de valeur économique qui doit être affirmée s'agissant de la formation des étudiants, qui est comme dans le principe du salaire à vie. C'est l'idée que l'étudiant est un producteur de valeur parce qu'il produit un effort intellectuel de la discussion, de la diffusion des idées, parce qu'il contribue à diffuser cette pensée dans son entourage. Enfin voilà, il y a l'idée qu'il est producteur de valeur indépendamment de son affiliation à de l'emploi dans tel ou tel secteur où ça va pouvoir se convertir en valeur monétaire. Mmh. Vous voyez, c'est important, si j'ai bien compris, d'affirmer qu'il y a une production de valeur économique. Mmh. Dans le présent de la formation, qui n'est pas identifiable à la valeur monétaire que ça peut induire. Il me semble que je ne trahis pas votre pensée.
Pas du tout. Pas du tout. Non. Vous revenez à l'autre dimension de la valeur économique qui est évoquée aussi donc dans l'ouvrage. Effectivement, quand on en reste aux valeurs d'usage, à des choses très concrètes, c'est en quelque sorte un piège, puisqu'on est en train de commencer à essentialiser une question qui est au fond éminemment politique et qui est donc éminemment économique. Le geste qui est fait à l'époque par les étudiants, les organisations de jeunes de l'époque, et qui influence considérablement les auteurs du plan Langevin-Wallon, on peut le supposer, c'est vraiment de dire, de proclamer, voilà, nous sommes des travailleurs. Et à ce titre, il s'agit de nous donner un salaire. Nous souhaitons que c'est la valeur économique que nous produisons soit reconnue telle qu'elle et qu'elle soit mise au même rang. C'est ce que feront les parlementaires qui vont tenter de mettre en place le salaire étudiant, qu'elle soit mise au même rang que la valeur économique qui peut être produite notamment par un ouvrier. Il y a des comparaisons qui sont faites à cette époque. Au fond, c'est au même titre qu'un ouvrier et qu'un étudiant peuvent produire de la valeur économique parce qu'il y a des décisions politiques qui sont prises et qui peuvent être prises dans le domaine économique et qui peuvent donc bousculer les frontières convenues du travail et du non-travail et puis la lecture, au fond, qu'on a tendance à en avoir dans des sociétés capitalistes. Hein. L'idée, c'est de proposer un autre récit sur le travail, sur la valeur et d'imposer donc ce contre-récit face au récit, je dirais, capitaliste qui peut être fait autour du travail et de la valeur économique.
Ouais. Alors, s'agissant d'imposer ce contre-récit, je pense qu'il y a encore un peu de travail à faire. Je voudrais vous montrer un extrait d'une vidéo réalisée par Usul ces derniers temps, où il est allé interroger des étudiants en lutte, des étudiants mobilisés dans le cadre de leur lutte contre la loi ORE. Et on entend un petit peu, du coup, les réactions de ces étudiants qui me semblent assez loin de l'affirmation de « nous sommes des travailleurs » que vous nous avez fait entendre. Donc, on regarde un extrait de la vidéo d'Usul.
Et qu'est-ce qu'ils demandent, ces communiqués? Eh bien, le retrait de la loi OR, orientation et réussite des étudiants, la loi qui a introduit la sélection à l'université. C'est donc, comme depuis quelques décennies, un mouvement purement défensif. Pas de demande de salaire étudiant, pas de demande de hausse globale du budget des universités.
On se sent tellement attaqué En fait, on est tellement dans la défense de tous nos acquis sociaux, que du coup on a du mal aussi un petit peu à se projeter là-dedans. On ne veut surtout pas craquer pour pas que le gouvernement passe. Et je crois que c'est vraiment ça le plus important, il y a vraiment l'idée d'urgence de si on craque, si les cheminots craquent, si les étudiants craquent, par rapport à ces lois-là. Après, le gouvernement, la voie est complètement libre pour faire ce qu'il veut. Et donc du coup, il y a vraiment une urgence à faire barrage au gouvernement, quitte à ne pas proposer tout de suite de choses, mais vraiment d'être mobilisé contre, en fait, plus que mobilisé pour.
Bah, moi, je suis assez d'accord dans le sens où il n'y a pas de revendication et que je trouve qu'on ne prend pas assez le temps, justement, de construire des revendications et de dire, justement, au lieu de défendre nos acquis, d'en prévoir d'autres et de dire on veut ça, et quitte à pas tous les avoir, en avoir au moins quelques-uns. Parce qu'en fait, c'est comme ça que ça se passe, et c'est en demandant le bras qu'on aura la main. Et en fait, en faisant pas ça, je trouve que c'est dommage et qu'on a perdu d'avance. Et pourtant, on se bat quand même parce qu'on y croit, mais on se bat pour défendre un truc alors qu'on doit se battre pour obtenir d'autres droits.
Il y a une dynamique générale aussi qui est un petit peu pessimiste de manière générale et qui court depuis longtemps. Et c'est peut-être ça aussi qui fait qu'on a moins, qu'on ne demande pas de choses, c'est peut-être qu'on est persuadé qu'on ne les aura pas. Et que du coup, on préfère défendre le plus possible ce qu'on a déjà et pas demander des choses dont on a peur qu'on n'ait pas. Ce qui est extrêmement dommage, clairement. Ce qui est, ouais.
On a quand même parlé de certaines choses qui était plus globale, par exemple la question de la méritocratie qu'il faudrait juste questionner, voire complètement déconstruire, en fait. Donc il y a quand même des choses comme ça qui ont été abordées, qui étaient plus générales. Ensuite, peut-être qu'il faut un peu plus de temps pour que ces choses-là soient abordées, mais c'est vrai qu'on passe beaucoup de temps à essayer de légitimer le simple fait que ce mouvement existe.
Ouais, on passe vraiment beaucoup de temps à juste parler avec ces gens et à essayer de trouver des choses qui conviennent à tout le monde. Et parfois, du coup, ça empêche un débat, je dirais, qui va plus loin là-dedans.
Car il s'agit également de légitimer les modes d'action eux-mêmes, hein, parce que le blocage et l'occupation des lieux d'études ne font pas toujours l'unanimité.
Donc on le voit, Usul, lui, il a l'air de connaître l'existence de la proposition d'un salaire étudiant. Il déplore que cette revendication ne soit pas parmi les revendications des étudiants. De leur côté, eux, les étudiants, ils constatent qu'ils sont sur la défensive. On voit que les manifs prennent la forme d'un cortège funéraire pas très affirmatif d'une alternative, d'un contre-récit. Alors, vous, si vous les aviez en face de vous, là, ces étudiants, que leur diriez-vous? Que, en effet, pour l'instant, l'heure est à la résistance contre les attaques s'agissant de la sélection, ou qu'il faut modifier leur manière de lutter en intégrant dans leurs revendications non seulement le fait de refuser la sélection, mais également affirmer la revendication d'un droit au salaire étudiant?
Je leur dirais qu'ils ont raison de se mobiliser et de garder une indépendance par rapport à ce qu'on peut leur dire.
Oui.
Et que ce reste les mieux informés pour construire leur propre mobilisation. Moi, je n'ai pas forcément de leçons à donner. Ça m'intéresserait justement plutôt de leur faire connaître, en fait. Je sens que cette idée, à un moment, elle s'est peut-être perdue et que c'est ça aussi qui fait planer le risque de la mise en place de ce type de réforme, et puis aussi de la hausse des frais d'inscription et de l'endettement étudiant. C'est peut-être aussi pour ça qu'on est un petit peu plus vulnérable aujourd'hui qu'on l'était il y a encore une vingtaine d'années à la mise en place de ce type de réforme. En tout cas, c'est ce qui s'est passé en Angleterre. J'aimerais leur dire aussi que voilà, en Angleterre, dans les années 70, le syndicat étudiant revendiquait un salaire étudiant et qu'il a abandonné cette revendication, qu'il a proposé des choses, on va dire, beaucoup moins radicales, finalement. Et puis est arrivé Thatcher et est arrivé un vrai discours sur la valeur économique des études. Est arrivé tout un ensemble d'acteurs qui avaient ce point de vue autonome sur la valeur économique des études. Et ils disaient donc, voilà, on peut en reparler, que les étudiants ne produisent de la valeur économique qu'après les études, etc. Donc je leur dirais, voilà, peut-être qu'aujourd'hui, attention, on a encore la chance d'avoir des organisations étudiantes, je pense à Solidaires étudiants, par exemple, en France, à une partie de l'UNEF. Vous avez aussi les jeunes communistes qui défendent cette proposition. Vous avez des minorités qui, aujourd'hui, sont mobilisées. Elles sont là. On a cette chance encore aujourd'hui d'avoir des organisations étudiantes qui réfléchissent à cette chose-là. Peut-être qu'il faudrait, accorder plus d'attention à ce type de propositions pour en faire ensuite faire des choix stratégiques, des choix de mobilisation qui soient au moins faits en toute connaissance de cause. C'est juste l'objet de ce livre, c'est surtout de faire connaître cette idée pour ma part, pas forcément de. Après, c'est aux étudiants de se l'approprier.
Tout à fait.
Ou pas.
Et on espère y contribuer par le biais de cet entretien. S'agissant de la proposition d'un salaire étudiant. Au moment où de cette effervescence politique qu'on évoquait tout à l'heure, 46, 47, 48, il faut quand même savoir qu'on est passé à un cheveu de l'adoption par l'Assemblée nationale d'un projet de loi réalisant le salaire étudiant, parce que les propositions, donc il y a eu la charte de Grenoble, ensuite il y a eu le rapport Langevin-Wallon dont on a parlé tout à l'heure, mais donc tout ça s'est traduit par des propositions de loi à l'Assemblée. En 48, il y a le rapport de la Commission du Travail et de la Sécurité sociale de l'Assemblée nationale qui prévoit la mise en place d'une couverture maladie, longue maladie, maternité pour les étudiants, qui anticipe la mise en place d'un pré-salaire et qui précise « Ce régime, dans notre esprit, n'est que provisoire. Il est bien certain, dit cette commission, que la conception moderne de l'étudiant est celle d'un travailleur intellectuel, qu'il faudra bien un jour lui donner tous les avantages de la sécurité sociale et non pas seulement les plus impérieux, et que l'institution d'un pré-salaire aux étudiants simplifiera et même résoudra complètement cette question. » Donc, ça arrive jusqu'à l'Assemblée nationale et finalement... Le projet de loi tentant d'instaurer un salaire étudiant se retrouve reporté sine die et finalement retoqué complètement. Au fond, parce qu'il était mal ficelé, parce qu'il avait la dernière proposition ne prévoyait pas le financement, si j'ai bien compris. C'est ça, il n'était pas assez solide sur la question du financement.
Oui, il y avait un peu de ça, mais peut-être revenir sur le rôle des étudiants, des étudiantes de l'époque dans la reprise par les parlementaires de ce type de discours. Vous avez vu, les parlementaires étaient aussi finalement mobilisés. Il faut bien être conscient que c'est à la suite d'une stratégie permanente d'interpellation des étudiants et des étudiantes sur cette question-là, d'interpellation de l'opinion publique, des autres groupes qui n'étaient pas forcément convaincus à l'origine, notamment des partis politiques qui n'étaient pas forcément convaincus par cette idée. Mais ils ont fini à la suite des interpellations menée par les étudiants, par reprendre cette idée que les étudiants et les étudiantes sont des travailleurs. Et cela s'est fait, y compris à la suite de grèves défensives. En 1947, il y a un projet d'augmentation des frais d'inscription. Et pour la première fois, les étudiants se mobilisent, se mettent en grève. Et ils s'opposent à ce projet d'augmentation des frais d'inscription. Ils s'y opposent au nom de l'idée que les étudiants sont des travailleurs, des travailleuses, qu'ils n'ont absolument pas à payer de toute façon pour faire leurs études, et qu'à l'inverse, on devrait plutôt les payer parce que ce sont des travailleurs, des travailleuses. Donc ça montre que c'est aussi en période de mobilisation défensive qu'on peut interpeller là-dessus, et ça mène à terme à ce que d'autres acteurs, peut-être plus puissants, réussissent à se réapproprier ce type de propositions, les défendre dans l'arène parlementaire et commencent même à faire adopter la proposition de loi qui n'a pas été adoptée. C'est des questions très, très historiques. En fonction des données qu'on a là, on peut dire qu'on avait là une proposition qui avait quand même deux défauts majeurs, entre guillemets, surtout pour le premier, parce que le premier, c'est pas vraiment un défaut, puisque cette proposition remettait complètement en cause les rapports de pouvoir de l'époque et instaurait une caisse nationale où les étudiants auraient été majoritaires et par rapport au ministère de l'Éducation nationale notamment, et donc auraient pu impulser d'autres réformes de l'enseignement supérieur, mais aussi du reste de l'enseignement. Ils avaient été extrêmement ambitieux quant au renversement de pouvoir qu'ils voulaient instaurer avec le salaire étudiant. Ouais. Et puis l'autre défaut qui en est, à mon avis, plus un, c'est qu'il n'y avait absolument aucune proposition de financement à la fin, malgré
alors qu'ils avaient examiné des options très intéressantes. Ils avaient envisagé à un moment l'hypothèse du financement par la cotisation.
Oui, les parlementaires avaient fait ça.
Et au moment de la proposition de loi, cette option-là, du financement par la cotisation, avait disparu du projet de loi. Et du coup, les parlementaires ont pu répondre « Ah bah, de toute façon, le truc n'est pas financé, on ne va pas voter pour ce machin-là. » Alors qu'à certains moments du processus, on avait envisagé le financement par la cotisation. J'ai pas très bien compris en vous lisant pourquoi, au moment de la proposition de loi, on retire la proposition de financement par la cotisation ?
Alors, l'acteur de l'époque que j'ai rencontré, là, l'un des rédacteurs de la charte de Grenoble, explique que l'UNEF, lors de son congrès de 1950, lors de l'adoption de sa dernière proposition, qui a été reprise en grande partie par les parlementaires, a dit il vaut mieux ne pas prendre une position précise parce que ça va braquer certains parlementaires et ça va empêcher, en gros, être une forme de dépassement de fonction. Ça n'est pas à nous de fixer ce mode de financement, c'est aux parlementaires de prendre leur responsabilité ensuite et de fixer eux-mêmes, parce qu'ils sont mieux informés, c'était ça l'idée, le mode de financement. Bon, ils ont fait une erreur.
Oui, c'est une erreur.
Parlementaires en ont profité pour ne pas prendre de position.
C'était une brèche pour la contradiction.
On peut penser que c'est ça qui s'est passé.
Ouais.
Après, bon, on peut penser aussi que les parlementaires de l'Éducation nationale étaient sur le même constat que l'UNEF, qu'ils ne se sentaient pas assez compétents sur les questions financières. Et donc, ils ont dit, bon. Voilà, ce sera aux financiers du Parlement et puis aux ministres financiers d'adopter ce financement, ce qui était visiblement une erreur, une erreur stratégique.
Ouais. Parce que vous, là, quand vous reprenez ensuite en fin d'ouvrage la proposition du salaire étudiant en proposant de promouvoir cette approche-là, vous mettez en avant le financement par la cotisation, exactement comme le principe du salaire à vie pour lequel militent Réseau Salariat et Bernard Friot. Hein, l'idée, c'est que c'est par la cotisation qu'on pourrait financer, mais y compris avec la masse actuelle d'étudiants, parce que quand même entre les époques 46, 47, 48 et maintenant, la démographie étudiante n'est pas du tout la même. Aujourd'hui, quand même, ça représente une population beaucoup plus nombreuse, me semble-t-il. Est-ce que ça ne rend pas complètement caduque l'idée d'un financement par la cotisation, le fait qu'aujourd'hui, la population étudiante soit si nombreuse ? C'est quand même possible
Oui. Non, bah c'est envisageable à partir du moment où on est conscient, effectivement, des volumes financiers et puis des technologies, notamment la cotisation, que ça appelle. Hein. On est sur l'équivalent de la création d'une nouvelle branche de la sécurité sociale. Hein. Donc voilà, c'est un budget qui est comparable potentiellement à peut-être pas aux retraites. Pour moi, on a quand même 14 millions de retraités, mais bon, qui serait comparable à ce qui se passe en matière de chômage, d'assurance maladie. Bon, ouais. Bah, c'est des sommes comparables, hein, c'est sûr, mais... Les moyens, ils existent, notamment en s'appuyant effectivement sur les volumes financiers qui existent déjà dans la formation professionnelle, aussi effectivement toutes les prestations étudiantes, hein, qui sont modestes aujourd'hui, mais qui rassemblées, mine de rien, bon, ça existe déjà. Et puis si vous pensez à tout ce qui se passe en matière de non-paiement des cotisations sociales actuellement, en termes d'exonération de cotisations sociales, en termes de fraude aux cotisations sociales, vous avez des leviers envisagés et on peut tout à fait donc anticiper la création d'une cotisation études-formation d'un montant relativement important, mais qui permettrait d'organiser un financement pérenne de ce type de prestations. Hein,
et donc, ce serait une caisse qui serait pilotée par quel type d'acteurs socio-économiques ? Enfin, c'est l'État qui gère ça ? Comment on attribue la responsabilité de la collecte de cette cotisation et de sa redistribution ? Qui pilote ça ? Parce qu'on s'inquiète toujours beaucoup de savoir qui pilote ce genre de très, très gros organes. il faudrait penser le pilotage par qui ? Par quel type de structure ?
Ah bah, si on est fidèle à l'esprit des propositions d'après-guerre, qui étaient extrêmement marquées par les débuts de la sécurité sociale et la constitution des premières caisses, ce seraient les premiers intéressés qui géreraient ça. En tout cas, c'est l'esprit de l'époque, notamment les étudiants, les étudiantes. Et puis aujourd'hui, si on anticipe toutes les personnes, tous les adultes en formation, ce seraient eux qui seraient, au fond, appelés à être décisionnaires en la matière par différents mécanismes, hein, dont on peut discuter ensuite, mais l'esprit, c'est ça. Mmh. Et donc, l'idée, c'est de créer effectivement une caisse qui pourrait aussi faire une place, comme ça a été envisagé après-guerre aussi, hein, à titre consultatif ou à titre décisionnel, à des organisations effectivement de personnel de l'enseignement supérieur, de personnel de l'enseignement qui, au fond, sont légitimes aussi à ce titre-là, parce qu'il y aurait des décisions politiques qui toucheraient l'ensemble du secteur en la matière. Aussi des acteurs, des personnels, des organisations représentant le personnel dans les organismes de formation des adultes, hein, en général, on peut l'envisager. Et puis, bien sûr, comme c'est une réforme ou une transformation qui a vocation à bénéficier à l'ensemble des adultes et puis l'ensemble des travailleurs, des travailleuses qui à un moment pourraient éventuellement reprendre des études ou une formation. On peut envisager aussi de faire une place aux confédérations syndicales de salariés, c'est tout à fait envisageable.
Mais là, si je me fais l'avocat du diable ou la parole adverse, je dis, mais ça crée une sorte d'effet d'aubaine, enfin, ça va attirer toutes sortes de gens. S'il y a un salaire étudiant, n'importe qui titulaire du bac va s'inscrire dans n'importe quel établissement universitaire pour percevoir la rémunération, même si il ne fournit pas d'efforts de formation. Vous voyez, est-ce que ça risque pas d'attirer des foules considérables qui s'inscriront de manière purement formelle pour pouvoir bénéficier du salaire étudiant? Comment on fait pour se prémunir de ce risque-là?
Ben, on travaille sur le déclenchement des droits, en fait. Hein, ouais. Le déclenchement des droits, on peut, sur le modèle de la sécurité sociale, on peut envisager plein de choses, notamment le fait qu'on pourrait organiser son retour aux études ou son retour à la formation dans le cadre d'un projet qui aurait été élaboré avec une personne tierce, par exemple, hein, sans que ça conduise à un quelconque contrôle. Hein.
Est-ce qu'il ne faut pas contrôler, justement, pour éviter les effets d'aubaine, contrôler qu'il y a une production des travaux qui sont fournis, enfin voilà, des notes obtenues, des choses comme ça, pour s'assurer que la formation est en effet suivie et que ce n'est pas juste une astuce pour percevoir un salaire étudiant, vous voyez? Parce que le contrôle, c'est un très vilain mot, une très vilaine idée, le fait qu'il faille contrôler que les étudiants se forment en effet.
C'est pas l'esprit de la proposition, c'est plutôt un contrôle collectif, politique, démocratique sur ce type de droit et la façon dont il est utilisé. Ce serait ça l'esprit avec tout un ensemble d'institutions de contrôle des formations proposées, de la qualité de ces formations qui pourraient être envisagées, puis peut-être aussi dans ce cas-là, c'est plus qu'un contrôle, c'est plutôt un travail collectif à faire sur le statut des études, de la formation. Moi, je fais partie de ces personnes qui ne pensent pas que poursuivre ces études tout de suite après le baccalauréat, ce soit forcément le plus intéressant, le plus épanouissant, le plus émancipateur pour les personnes. Donc, à discuter, est-ce que forcément on a besoin tout de suite après le baccalauréat de se lancer dans ce type d'activité, ce type
d'études,
de formation?
Vous êtes plutôt sur le modèle de la formation tout au long de la vie, où on peut, à n'importe quel moment de son parcours, de sa vie d'adulte, retourner vers des formations
Oui, ce serait peut-être la voie à privilégier aujourd'hui. Mais bon, vous voyez, là, on est en train de parler de choses très opérationnelles, alors qu'il y a tout un travail, je pense, pour le coup, à faire sur les mentalités collectives et même chez les personnes les plus mobilisées pour que
oui,
ces personnes-là envisagent même la possibilité de ce genre de choses.
Mais pour convertir les mentalités, je pense qu'il faut donner à voir concrètement qu'est-ce que c'est l'alternative qu'on propose. Vous voyez, c'est pour ça que je vous fais développer sur comment ça marche concrètement, qui finance, qui surveille, etc. Parce que je pense qu'il faut que l'opinion mesure le caractère tout à fait tangible et accessible, au fond, concrètement. Financièrement, c'est possible.
Et ce qui est envisageable, peut-être que je n'ai pas évoqué, c'est encore une fois de travailler sur la nature des droits qui sont proposés aux personnes. Il y a une multitude de droits envisageables où il y aurait donc des personnes qui seraient salariées. On peut envisager effectivement le modèle on a le droit à faire, après 18 ans, on a le droit à faire 5, 8 ans d'études. De formation mobilisable tout au long de la vie. On peut limiter dans le temps, effectivement, pour que ce soit pour rendre la chose peut-être plus opérationnelle pour les personnes qui voudraient vraiment penser concrètement comment ça serait mis en place ce droit-là. On peut envisager aussi que ce droit soit différent selon le niveau d'études des personnes et la chance qu'elles ont eue dans le passé d'aller jusqu'au baccalauréat, notamment. On peut envisager un droit opposable au baccalauréat, aux diplômes de fin d'études secondaires. Ce droit, il serait mobilisable par tous les adultes. Et il y en a beaucoup aujourd'hui qui n'ont pas réussi à aller, n'ont pas eu la chance plutôt d'aller jusqu'au baccalauréat. Après tout, ce droit-là, peut-être on pourrait envisager qu'il soit prioritaire sur les autres pour que vraiment ce soit les couches populaires et les couches à qui on n'a pas donné la chance de faire ce type d'études qui soient prioritaires sur des reprises d'études de personnes plus diplômées, hein, ce qui se passe couramment aujourd'hui dans la formation continue. On peut envisager aussi des droits plus courts, de quelques semaines pour que la personne se projette un peu plus, qu'elle puisse suivre un enseignement, un cours en particulier, pour qu'elle voit à quoi ça renvoie, etc., qu'elle s'intègre beaucoup plus facilement à un lieu d'études comme l'université, par exemple, qui, on peut le concevoir tout à fait, on le sait, peut paraître très très lointain pour beaucoup de couches sociales aujourd'hui dans la...
Mais ça existe aujourd'hui, les congés de formation, s'agissant des petites périodes, ça existe déjà un congé de formation qui permet quand même de percevoir une indemnisation, une allocation, une indemnisation, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais il existe aujourd'hui des congés de formation.
Oui, c'est le congé individuel de formation, et c'est quelque chose qui, au fond, est une forme de salaire étudiant ou de salaire de formation.
Hein,
il y a maintien du salaire pendant une période de formation. C'est partie des dispositifs que j'évoque à la fin pour évoquer les leviers qu'on a aujourd'hui et l'existant, parce que les événements de l'histoire ont fait que on a ce type de proposition qui existe déjà, qui mobilise beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent déjà. Hein. C'est quand même assez fort. Et ce qui est fort, c'est que l'idée, c'est de maintenir le salaire de la personne, ou salarier une personne en études, en formation. Et ça, c'est tout à fait intéressant, même si ce droit-là, c'est pas non plus la panacée. Quoi.
Alors, rémunérer une personne au cours de sa formation, moi, à vrai dire, c'est une expérience que j'ai faite dans le cadre de mes études, puisque moi, j'ai eu la chance de passer par l'école normale supérieure, et donc j'ai bénéficié d'un salaire pendant les 4 ans de ma formation à l'ENS. J'aimerais savoir si cette forme-là du salaire étudiant, ce qui se réalise donc dans les écoles normales supérieures et peut-être dans d'autres formations, est-ce que pour vous c'est un contre-modèle, parce que c'est quand même des formations très sélectives, d'élite, ou bien est-ce que c'est au contraire la forme à généraliser ? Vous voyez, est-ce que je dois avoir honte d'avoir bénéficié de ce privilège infect, ou est-ce que j'ai fait une sorte d'expérience d'avant-garde, d'avoir déjà vécu ce que c'est que le salaire étudiant et que tout le monde sera amené à vivre quand on aura réussi à faire la révolution?
C'est plus une expérience d'avant-garde, c'est sûr.
C'est ça.
Vous êtes un témoin de ce que ça peut apporter, etc. Mais... il n'empêche que ce dispositif-là, en fait, anticipe quand même, est construit sur une anticipation du statut de fonctionnaire. Et je pense que, en fait, c'est les étudiants et les étudiantes qui sont dans ce format-là, en fait, sont déjà fonctionnaires.
Ouais.
Et que ces personnes, sont dans un statut très particulier. C'est plutôt par rapport à la fonction publique, à ces transformations, que ça pourrait être envisagé. Après tout, pourquoi pas pourquoi pas partir de là, pourquoi pas envisager une fonctionnalisation de tous les étudiants. Les étudiantes, faut voir à quoi ça renvoie. Ça a été évoqué après-guerre. Ça a été discuté. Les organisations de l'époque ont pensé que ils n'avaient pas besoin de ce dispositif-là pour envisager une généralisation du salaire étudiant comme ils l'envisageaient, notamment parce qu'il y avait le risque, effectivement, que l'État recrée une subordination sur les personnes. Donc, c'est à ça qu'ils ont pensé. C'est un risque qui est aussi envisageable aujourd'hui. Moi, ce qui me paraît peut-être plus intéressant, peut-être plus audible, plus parlant aujourd'hui, c'est... tous ces chômeurs indemnisés, ce que j'évoque dans le livre, tous ces chômeurs indemnisés qui aujourd'hui sont en formation, sont autorisés par Pôle emploi à être en formation et à toucher quelque chose qui est une indemnisation qui est faite en référence à leur dernier salaire. C'est peut-être là qu'il y a quelque chose à creuser, à mon avis. La raison principale étant que si on ne fait pas ça, si on ne met pas Pôle emploi devant ses responsabilités sur ce plan-là, on va laisser Pôle emploi véhiculer une conception de la formation qu'il véhicule de plus en plus et qui est tout à fait fonctionnelle aux prêts étudiants, au compte personnel de formation là, qui arrive et à la conception capitaliste.
Oui, c'est-à-dire que ça cultive l'employabilité. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'il faut se former pour redevenir adéquat au marché actuel de l'emploi dans le secteur marchand capitaliste. Pôle emploi est devenu un organe, un opérateur d'employabilité et non pas du tout une institution finançant la formation dans l'absolu des citoyens. Mais c'est très difficile de faire entendre. On est tellement dans un imaginaire globalement colonisé par les impératifs du capitalisme, c'est très difficile de faire entendre une autre, ce contre-récit que vous évoquiez tout à l'heure. Et l'idée que, oui, bien sûr, la société pourrait rémunérer les gens pour qu'ils se forment dans l'absolu et non pas pour qu'ils deviennent de bons compétiteurs sur le marché de l'emploi. C'est difficile. Je ne sais pas quels outils il faut mobiliser pour parvenir à convertir les imaginaires, parce que c'est quand même de ça qu'il est question. Il faut complètement convertir les imaginaires. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est toute une culture, une mentalité qui doit être retravaillée. Comment on fait pour changer les mentalités ? C'est quoi la...
Ah bah c'est la grosse question marxiste traditionnelle. Ouais. Conscience en soi, conscience pour soi. Enfin, il y a des alliances d'acteurs, des alliances de groupes sociaux à construire. Il y a des idées. Elles doivent se faire autour d'idées claires et d'une lecture autonome de la formation. Et puis derrière, bon, une lecture autonome du travail, de la production de valeur, il faut que ça apparaisse effectivement en termes idéologiques, mais aussi que ça soit lié à des pratiques concrètes qui existent déjà. On l'a évoqué, hein, c'est des choses. Il faut être capable de voir que aujourd'hui, il faut qu'on soit collectivement capable de voir que le salaire étudiant ou le salaire de formation, c'est quelque chose qui existe déjà, mais c'est réservé à une minorité parce que l'histoire a parlé jusqu'ici, et puis voilà, les luttes, la lutte des classes et d'autres luttes ont fait que c'est réservé aujourd'hui à une minorité, mais ce sera les luttes qui vont se mener par la suite, qui si ce sont des luttes conscientes de tout ça, elles sont tout à fait en mesure, on peut le penser, de changer la donne et de généraliser ce type de mesures. En tout cas, elles peuvent peut-être aussi mobiliser et produire une autre lecture du fonctionnement du monde en général, évidemment, mais aussi du fonctionnement de la formation, quoi.
Très bien, merci beaucoup Aurélien Casta pour cet entretien. Merci pour ce livre, donc Un salaire étudiant aux éditions de La Dispute. Je vous encourage à vous en emparer et à vous emparer de cette revendication décisive pour sortir des luttes défensives et passer à l'offensive. Bon courage pour les luttes, pour tous ceux qui sont dans les blocages. Et puis bonne lecture à tous. Je vous dis à très bientôt pour un prochain Dans le texte. Salut.